La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Émission Osons la philosophie avec Françoise Girnaud. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, première des deux émissions, que nous disent les rêves? Et ma première question, c'est que nous dit ce titre?
Que nous dit ce titre? Eh bien, si j'ai proposé ce titre, c'est bien parce que les rêves, d'abord, nous apparaissent au moment du réveil, pour peu que nous souvenions des traits fondamentaux, des scènes fondamentales du rêve, le rêve nous apparaît comme éminemment énigmatique. Alors, absurde, mais nous avons le soupçon, sous l'absurdité apparente, qu'il y a un sens caché. Donc, nous ne pouvons pas ne pas imaginer que l'énigme du rêve puisse être partiellement levée, ou en tout cas, nous pensons qu'il y a quelque chose de voilé, hein, à découvrir dans le rêve. Alors, nous avons bien sûr toute une tradition d'interprète des rêves, qui va bien sûr de l'Antiquité grecque dont je vais parler, à Freud. Alors, évidemment, il ne s'agit pas du tout, apparemment, il y a peut-être des éléments qui coïncident aussi. Mmh. Apparemment, il ne s'agit pas du tout du même exercice analytique du rêve, car le rêve s'analyse. Alors, le paradoxe du titre aussi, c'est que le rêve, c'est bien une hallucination au sens visuel du mot. Mmh. Et que précisément, quand nous voulons interpréter le rêve, eh bien, nous mettons en mots, c'est-à-dire nous mettons en récit, par fragments, hein, les moments du rêve que nous avons, je reprends l'expression, hallucinés. Mmh. Il y a toute cette relation entre le rêve et toutes les formes d'hallucination, y compris celle de la folie. Hein. Mmh. Nous sommes dans un monde qui est le monde... du presque pathologique.
C'est vrai que quand on se réveille après un rêve, notre première réaction, c'est « mais ça veut dire quoi ?»
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a l'impression...
Un sentiment de malaise aussi.
Voilà,
pourquoi j'ai rêvé ça?
Voilà, on a un sentiment de malaise. Même si le rêve n'est pas de nature cauchemardesque, nous avons eu un sentiment de malaise, un sentiment que quelque chose de caché, là, vient d'affleurer, nous ne savons pas quoi. Et nous avons quand même le sentiment que ça dit quelque chose de nous, ou que c'est un message des dieux, comme le voulait l'Antiquité.
Oui, est-ce que c'est prémonitoire ou pas?
Alors ça, nous verrons. Nous traiterons du rêve prémonitoire.
Alors, bien sûr, comme vous l'avez dit, de l'Antiquité au XXe siècle, et même plus tard, vous m'avez déjà lu des citations, et je pense que ça serait bien de commencer par des citations, parce que ça montre que c'est une question universelle et de tous les temps.
Tout à fait. Alors, deux citations, donc la Grèce et la Chine. Une première citation d'Héraclite d'Éphèse, donc 520-460 avant notre ère. Elle est très célèbre. « Pour les gens éveillés, il n'existe qu'un monde, cosmos. Hein. » Et cosmos, c'est toujours un monde très, comment dire, un monde qui, comme une parure, est parfaitement organisé. Hein. Donc, je reviens. Pour les gens éveillés, il n'existe qu'un monde, alors que dans le sommeil, chacun se tourne vers un monde qui lui est propre. Donc, nous pouvons au moins comprendre ceci, et vous savez que Héraclite est dit l'obscur, nous pouvons au moins comprendre ceci, que notre rêve renvoie à une fantasmagorie psychique personnelle, singulière, et non pas au monde dans lequel les collectivités que nous sommes, les citoyens des villes que nous sommes, vivent leur expérience éveillée.
Alors la seconde citation.
Alors la seconde citation, encore une fois, de la Grèce à la Chine. Il s'agit d'une citation du deuxième livre fondamental du taoïsme. C'est le rêve de Chuang Tzu qui est dans la deuxième partie du livre qui s'intitule Chuang Tzu. Voici, 4e siècle avant notre ère, donc. Hein. Chuang Tzu, au réveil d'un rêve où il avait était un papillon butinant les fleurs, se demande s'il était Chuang Tzu, se souvenant d'avoir rêvé qu'il était un papillon, ou plutôt un papillon en train de rêver qu'il était Chuang Tzu. Alors, nous voyons ici apparaître au moins au minimum quelque chose comme la réversibilité du rêve et, je dirais, de l'existence vigile, comme on dit, hein, l'existence de l'être éveillé que nous sommes aussi essentiellement.
Il y a un problème d'identité. Est-il un papillon, est-il un homme ? Problème identitaire.
Oui, il y a la question de l'identité, mais vous voyez bien aussi que l'identité, pour Chuang Tzu, ne se reconduit pas nécessairement à la condition humaine. Alors ça, là, c'est intéressant. Oui. Et le fait que ce soit un papillon, le papillon volette, hein, il butine les fleurs. Et ça évoque évidemment les divagations, les pérégrinations au hasard des maîtres, enfin des sages taoïstes.
Alors, vous avez lu deux citations, mais bien sûr, vous appuyez votre analyse sur de nombreux textes et des passages de lecture
oui.
Que vous abrégerez parfois. Et je suis toujours étonnée de voir la permanence de ce questionnement depuis la nuit des temps.
Oui, mais les hommes rêvent. Les hommes n'ont jamais cessé de rêver. Le rêve est une expérience anthropologique très très forte. C'est aussi une expérience des animaux. Et par exemple, Aristote le dit. Aristote dit, oui, mais les animaux rêvent aussi. Et nous verrons dans quel contexte il le dit. Enfin, j'espère que j'aurai le temps de vous le dire.
Alors, vous allez débuter votre analyse et vous démarrez par qui ? Par Artémidore, je crois.
Oui. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du rêve et du rêve oraculaire, hein, du rêve conçu comme en appelant à la divination, et donc en appelant à des interprètes qui peuvent être des spécialistes. Alors, vous venez de prononcer le nom d'Artémidore et de Daldis, puisque Daldis est une petite ville où sa mère était née, mais lui a vécu à Éphèse. Bon, je reviendrai sur Éphèse, c'est important. Donc, Artémidore
d'Éphèse.
Artémidore d'Éphèse a essayé, dans un livre de réflexion très célèbre, de montrer comment il était pertinent de penser que le rêve avait justement une valeur divinatoire. Puisque, encore une fois, lui-même voyageait en Grèce auprès des grands pèlerinages religieux et il interrogeait les personnes. Mais je vais y revenir un peu plus longtemps et un peu plus loin. Voilà. Mais d'abord, je voudrais dire que le rêve, dans la civilisation grecque, d'emblée se présente comme extrêmement ambigu. Alors, nous avons un témoignage de l'Iliade. Hein. Nous sommes au 8e, 7e siècle avant notre ère. Un témoignage d'un rêve venu d'un dieu, et pas n'importe quel dieu, de Zeus lui-même. Et ce rêve est un rêve fallacieux. Alors, je vais vous raconter l'histoire.
Un rêve fallacieux. J'aime bien l'adjectif.
Oui, nous sommes tout au début de l'Iliade, au livre 2. Mais vous savez, c'est très très court. Hein, paragraphe 2, on pourrait presque dire. Et voici, donc, dans les épopées homériques apparaissent des rêves. Et dans cette épopée, par exemple l'Iliade, eh bien, il y a évidemment des devins officiels. Hein. Donc le titre de devin est un titre tout à fait institutionnel. Alors là, ce n'est pas tout à fait ça dont il s'agit. Voici. Donc, il s'agit de Zeus et d'Agamemnon. Alors, Agamemnon, après bien des péripéties qui sont préliminaires hein, à la rédaction et à la lecture ou au chant de l'Iliade, Agamemnon est prêt à abandonner le combat parce que les choses se passent très très mal entre les Achéens, c'est-à-dire les Grecs, dirons-nous, et puis évidemment les Troyens.
Les Troyens.
Il est tout à fait tenté de tout laisser tomber. Et Zeus veut intervenir. Zeus intervient, pourquoi ? Parce que Zeus veut que cette guerre, cet affrontement terrible ait lieu. Il s'agit pour Agamemnon, selon Zeus, de venger Achille. Et en tout cas, de faire en sorte que la guerre reprenne après le deuil d'Achille qui vient de perdre cette jeune fille merveilleuse qu'on lui avait d'abord promis. Bon, alors voyons, je lis le texte. Les autres dieux et les hommes, armeurs de chevaux, dormaient tout au long de la nuit. Mais le doux sommeil ne tenait pas Zeus. Il était certain dans sa poitrine. Comment honorer Achille ? Il hésite tout de même. Et détruire près des bateaux une foule d'Achéens. venger Achille, entre parenthèses, du mauvais traitement qu'il vient de subir. Puis, de la part des Achéens, puis la décision la meilleure lui apparut dans le cœur, envoyer Rêve, le destructeur, à Agamemnon, fils d'Atrée. Rêve, le destructeur. Bon, cela désigne le rêve en tant qu'il sera funeste. C'est une autre traduction possible. Étrange, non? L'appelant de sa voix, il prononça, donc à Rêve, il prononça des paroles ailées. « Mets-toi en route, rêve destructeur, deux fois, va vers les vifs bateaux des Achéens. » Donc, arrivé au campement d'Agamemnon, fils d'Atrée, expose tout sans rien tordre, comme je te l'ordonne. Commande-lui de mettre en armure les Achéens au crâne chevelu, en toute force, car il peut maintenant prendre la ville aux larges rues, la ville des Troyens. Donc, le rêve, hein, ou rêve plutôt, le personnage Oïnos, le rêve, est prêt à déclarer au fils d'Atrée, à Agamemnon, qu'il va prendre la ville immédiatement, si j'ose dire, la ville d'Ilion, hein, puisque l'Iliade, l'Ilion, la ville de Troie. Alors, il s'agit évidemment d'une prédiction et d'une prédiction favorable à Agamemnon. Mais il est déjà dit que ce rêve est destructeur.
Ouais. Hein? Donc, en fait, il court à la catastrophe.
Oui.
Donc, le dieu, les oui. dieux mentent.
Alors, oui, enfin, il dit cela, donc, Zeus dit cela, rêve s'en alla quand il eut entendu ces mots, vite il arriva au vif bateau des Achéens et alla vers Agamemnon, fils d'Atrée. Il le trouva endormi, autour de lui se répandait un sommeil d'ambroisie, rêve se tenait debout à sa tête sous les traits du fils de Nélée, c'est-à-dire de Nestor, puisque Nestor c'est le personnage ancien qui est en quelque sorte le sage de cette équipée des Achéens contre Ilion. Rêve se tint debout à sa tête sous les traits du fils de Nélée, Nestor, qui parmi les anciens, Agamemnon prisait le plus. Sous cet aspect, Rêve, le destructeur, lui adressa la parole. « Tu dors, fils d'Atrée, le maître des chevaux qui avait l'esprit de bataille. Celui-là, toi, il ne doit pas dormir toute la nuit, l'homme qui porte les décisions. » Vers qui se tourne le peuple et qui a soin de tant de choses, puisqu'il est évidemment Agamemnon le commandant de l'armée. Prête-moi attention et vite, je suis pour toi un messager de Zeus. Mais toi, tiens cela dans ta poitrine et que l'oubli ne s'empare pas de toi quand tu quitteras le sommeil à l'esprit de miel. Il parla ainsi et partit, il le laissa à l'endroit même, réfléchissant dans son cœur à cela qui ne devait pas s'accomplir. Alors, je m'arrête. Hein. Ouais. Je m'arrête là, nous voyons que Zeus envoie un rêve, j'ai dit fallacieux, un rêve mensonger pour prêter Agamemnon. Donc, les rêves émanant du divin ne sont pas nécessairement des rêves véridiques. Là, il s'agit d'un rêve menteur, d'un rêve, et je dirais que le rêve d'un dieu pervers.
Hein, nous les dieux bien. Mentent.
Les dieux, là, ils sont plus que menteurs, ils sont pervers.
Ouais.
Moi, je pense que ça relève de la perversité. Et du reste, Platon condamne justement ces passages d'Homère où le divin n'apparaît pas comme source lumineuse de vérité.
Moi, ce que j'ai noté, c'est que le rêve lui dit « ne l'oublie pas, ne m'oublie pas lorsque
tu
te réveilles ».
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le rêve peut bien être... oublié, comme c'est le cas la plupart du temps, les rêves s'estompent au fur et à mesure de la journée. Non, souviens-toi. Souviens-toi, tu vas conquérir Ilion. Et en fait, le rêve était un rêve dont le messager savait qu'il ne se réaliserait pas. Donc, je dis bien perversité, perversion. Nous voyons donc que d'emblée, dans la littérature grecque la plus ancienne, c'est formatrice de notre culture, le rêve prémonitoire est déjà marqué du signe de l'indécision, voire même de la fausseté.
Oui, mais pourquoi le suivre, ce rêve? On n'est pas obligé.
Parce qu'il lui est commandé.
Ah oui, lui est commandé par les dieux.
On ne résiste pas au messager de Zeus. D'autant qu'il prend la forme, prend la forme du personnage le plus respecté de l'armée, qui est la forme de Nestor. Là aussi, il y a une dissimulation. Mmh. Il y a une double dissimulation, c'est-à-dire Zeus se dissimule derrière son messager et le messager lui-même se dissimule derrière le fantasme de Nestor. Mmh. Nous sommes quand même dans un monde mythologique, dans un monde de fantasmes. Mmh. Mais ces fantasmes sont douloureux. Mais ces fantasmes prêtent à la destruction. D'où la traduction par rêve destructeur ou rêve funeste. Rêve destructeur est une traduction, je trouve, préférable.
Oui, plus claire, plus précise.
Oui, oui. Oui. Ça traduit littéralement le grec. Hein.
Alors sur Radio Alliance Plus, dans cette émission que nous disent les rêves, Debussy, je pense, s'imposait, Françoise.
Oui,
donc nous écouterons dans les deux émissions Debussy. Et après cette lecture du rêve destructeur de l'Iliade, merci de poursuivre votre analyse. Que nous disent les rêves?
Oui, alors je reviens sur un trait fondamental de la situation des Grecs et des Romains en face du rêve ou à la mémoire du rêve. Eh bien, en effet, je vais parler d'un auteur qui a rassemblé dans un essai très, très connu, très célèbre, qui d'ailleurs traverse le temps. Hein. Je vais vous parler donc d'un certain, nous l'avons prononcé son nom déjà, Artémidore, donc d'Éphèse. Dans la tradition grecque, en effet, et romaine ultérieurement, les rêves sont possiblement considérés comme véritables oracles, oracles véritables, comme justement rêves prémonitoires. Alors la prémonition qui serait à interpréter dans le rêve, évidemment invite à une action. Hein. Mmh. Les rêves prémonitoires ne sont pas simplement des états des lieux, si vous voulez, de la personne qui a rêvé, mais ces rêves entraînent une action, entraînent une attitude, entraînent un agissement dans la logique même de ce que le rêve profile. En effet, dans les sites de pèlerinage, dans les sites de pèlerinage, auprès d'ailleurs des temples, en particulier du temple d'Éphèse, où règne Asclépios, il y a des traditions qui sont assez curieuses. C'est-à-dire que quand un personnage, une personne, homme, femme ou esclave, peu importe, là les différences sociales ne jouent pas, souffre d'une maladie que les médecins classiques n'arrivent pas à diagnostiquer, il se rend dans un lieu et il pratique le rituel de l'incubation, c'est-à-dire dans une grande pièce attenante au temple. Ils passent la nuit et ils sont censés rêver, et dans leur rêve, Esculape, directement, leur présente ou indirectement, leur donne le diagnostic et parfois leur présente le médicament,
le remède,
qui
oui.
permettra, le remède qui permettra de les sauver. Donc on voit bien comment ces rites sont extrêmement prenant, je dirais, et décisif dans une pratique, je dirais, paramédicale. Alors, entre parenthèses, les médecins sont toujours intéressés aux rêves. Mmh. C'est pas un hasard si Freud, justement, enfin, de tradition médicale, ouais. s'intéresse aussi aux rêves. C'est une tradition médicale que d'avoir quand même le soupçon qu'il y a quelque chose de pathologique et de libération d'une pathologie diffuse dans le rêve. Mmh. Hein.
Alors, si on était dans une émission médicale, les neurologues auraient un autre.
Oui,
un
alors autre la perspective des neurologues est tout autre. Bon, moi, je parle de textes qui sont des textes de civilisation, des textes philosophiques. Hein. Donc, Artémis de Daldis, qui vit au IIe siècle de notre ère, donc dans l'Empire romain, et il parcourt l'Empire romain, disais-je, de cérémonie en cérémonie religieuse, hein, dans des festivités religieuses. Lui-même, disais-je, donc nous sommes au IIe siècle après notre ère, hein, lui-même, disais-je, est interprète des rêves.
Interprète.
C'est ça, si j'ose dire, c'est son métier.
Ouais.
Hein. Il y a des interprètes institutionnels qu'il s'agit, pour lui en tout cas, de distinguer des charlatans. Parce que le soupçon pèse toujours, même pour Artémidore, qui veut justement rendre compte de la validité de l'aspect conjectural du rêve, même pour lui, il y a toujours tout de même le soupçon que l'oniromancie, comme on dit, est tout de même proche de certaines interprétations charlatanesque. Il y a des charlatans. Et il y a d'ailleurs des textes qui dénoncent la charlatanerie de certains, chez Lucien par exemple, de certains interprètes.
Alors je suppose que Freud avait lu Artémidore.
Bien sûr. Alors Freud, au début de l'interprétation du rêve, mentionne à plusieurs reprises du reste les essais d'interprétation du rêve et. Il n'est pas innocent non plus, Freud, de la méthodologie exposée par Artémidore pour justement donner des règles de méthode pour interpréter les rêves.
Alors bien sûr, moi je parle aussi de Freud, que vous développerez dans la deuxième émission, mais il y a tous ces psychologues, psychiatres qui soignent par l'interprétation des rêves. Et c'est ça que vous voulez, dont vous voulez parler dans ce titre
Alors,
que
non.
nous disent les rêves.
Alors, je pense que pour Artémidore, déchiffrer le rêve, parce que le rêve est tout de même un rébus, un chiffre au sens, je dirais, des chiffres que nous avons brodés sur nos draps, enfin. Le rêve est un chiffre. Or, ce chiffre, encore une fois, s'il doit être déchiffré, c'est pour Artémidore dans la mesure où il permet, une fois exposé au rêveur, de lui indiquer comment parer à cet avenir qui se prononce, qui s'avance vers lui. Donc, ce n'est pas une fonction thérapeutique, là. C'est une fonction, comment dire, il s'agit pour l'interprète du rêve, encore une fois, d'inciter à une manière tout à fait vivante, active, de s'emparer de ce qu'implique le futur, tel qu'il apparaît dans le rêve.
Alors nous le développerons, enfin vous le développerez dans une deuxième partie où on parlera davantage de Freud, donc de, enfin des contemporains du XXe siècle. Mais c'est fascinant de s'interroger justement sur ce rêve.
Oui, mais avant d'en parler, à propos de Freud, avant de parler de l'interprétation du rêve telle que l'a mise en place magnifiquement Freud, je voudrais tout de même dire quelques mots des propos des philosophes qu'on appellerait aujourd'hui rationalistes, hein, qui dénoncent justement la charlatanerie des tentatives de comprendre les rêves.
Alors on le reprendra dans la deuxième émission.
Oui, je vous remercie.